Attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker.
L'été sous le signe des vacances, de la chaleur, du farniente, des excès en tout genre, du si sexe, comme notre ami fidèle qui a sévi dans les campings d'Aquitaine, Hanson. Mais désormais, il faut rajouter un S, le S de nos séries TV. Car bien que nos vacances soient une coupure nécessaire avec notre quotidien, il est âpre de couper avec nos séries en cours, qui elles ne prennent pas de pause. Alors auparavant, on emportait nos moules vite, nos magazines d'intellectuels, comme entrevue maximale, notre monnaie pour avoir un cancer de la peau, quelques préservatifs pour éviter une chaude pisse. Désormais, avec l'avènement de la technologie, on peut compresser nos séries en format MP4 dans nos smartphones. Que dis-je ? Les télécharger via l'application de notre choix pour les mater sans Wi-Fi. Dans un TER à l'hygiène douteuse entre Port-la-Nouvelle et Bourg-Péronas, la SNCF n'arrivera jamais à nous faire préférer le train. Leur train dégueulasse. Mais nous autres, nous allons vous faire kiffer les séries TV. Messieurs, dames, le bonjour, comment ça va ? Est-ce que la vie est belle ? Bienvenue sur Ma vie est une série télé. Aujourd'hui, nous allons traiter des séries d'été. Avec notre bâtard favori, le kit de la plage, un savant mix entre David Charvet et Patrick Chirac. Et Patrick Chirac, faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Fidèle. Fidèle, comment ça va ?
Oh putain, tu m'as gâté là, David Charvet carrément.
Bah, fallait une petite référence française qui a sévi sur des plages.
Ouais, je suis là. Grand morceau.
Attends, il a quand même serré Pamela Anderson, donc c'est respectable.
Ouais, mais visiblement dans le milieu qui n'a pas serré Pamela Anderson.
Ah mince, c'est une rumeur alors.
Non, si, il l'a serré, mais je veux dire, Adil Rami aussi, il l'a serré, hein, donc...
Ah, tout de suite, ça perd en glamour. Quand tu parles d'Adil, tout de suite... Adil, il est trop proche de nous, tu vois, il est trop proche du quartier, ça perd en glamour.
Si Adil, il a pu, bah, voilà, ça enlève peu de mérite à David. En plus, avec David, ça n'a pas dû durer très longtemps, et il en a chialé pendant des mois, il en a fait un morceau, donc...
Ah merde, ça, je ne connaissais pas ce dossier, donc David, il est très nostalgique.
Tu connais pas
son
gros hit, Should I Leave, Should I Stay?
Ah, c'était pour elle,
c'était,
d'accord.
C'était, il pour a fait elle, comme, c'était pour elle, bien sûr.
Ah, il a peut-être inspiré Usher et Justin Timberlake quand chantait pour leur meuf. Et ça, c'est bien, tu vois, quelque part. Peut-être que c'est lui, hein. C'est le Prums qui a lancé la chanson triste. C'est beau, David, on pense à toi, mec. Alors, série d'été fidèle. Ouais. J'espère que t'as des beaux dossiers à nous donner, là. Est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que je lance, moi ?
Commence, que moi j'ai pas grand chose de neuf parce que cet été il y a eu un gros rattrapage avec madame sur Game of Thrones et Banshee qu'elle n'avait pas vu. Donc tout retapé, on arrive à la fin de Banshee là. Donc les deux séries cumulées, on est sur 11 saisons rattrapées, ouais. Quand même.
Vite fait, petite question, qu'est-ce qui a vieilli, qu'est-ce qui a pas vieilli ? Qu'est-ce que tu kiffes le plus à revoir en rewatch ? Parce que les rewatch c'est important, tu vois, c'est pas évident avec ce qu'on a.
Il faut savoir que c'est la première fois que je regarde revois des séries. Que j'aime pas trop, tu sais, une fois que je connais l'histoire, j'aime pas trop revenir en arrière. Un film ça peut aller, mais sur les séries c'est trop long pour. Et j'ai été agréablement surpris. Game of Thrones, j'y suis allé parce qu'elle l'avait lu, donc ça m'intéressait aussi d'avoir au fur et à mesure qu'on regardait les différences avec les bouquins. Et le fait de voir la série en très condensé, parce qu'on a dû voir les 7 saisons en 3 semaines.
Pas mal.
À pas attendre chaque semaine l'épisode, chaque année la nouvelle saison. C'était super intéressant parce que dès le début, surtout avec Game of Thrones où il y a plein de personnages, plein de lieux, plein de trucs, dès le début tu te repères vachement plus qui est qui. Tu dis ah ouais, lui il était déjà là dès la première saison. Ou tu dis ah ouais, lui je l'ai oublié parce qu'il est mort en saison 2 et à la fin t'as compé.
C'est vrai que c'est hyper galère hein. Quand tu revois le truc, c'est quand même assez énorme. Game of Thrones, c'est la multitude de personnages.
Voilà, et donc très intéressant. Et quand tu regardes tout en condensé, alors j'étais déjà pas de ceux qui fustigeaient la fin, qui brandissaient les armes pour étriper les showrunners, mais c'est plutôt cohérent hein, quand tu regardes tout d'un trait. Parce qu'il y a des petits détails. Il y a des petits détails à un moment donné. Ma meuf me dit ouais, mais ça là, c'est un peu bizarre. Non, c'est pas ma meuf, j'ai une connerie, c'est en reparlant avec un collègue de taf. Il fait ouais, mais là c'est abusé, le dragon il détruit le trône et tout, machin, ça veut rien dire et tout. Je fais ouais, mais faut pas. Moi je me suis rappelé du coup qu'en saison 2 ou machin, on t'explique que le dragon à l'ancienne, c'est lui qui l'a fabriqué avec des glaives et des flammes. Donc il y a des cohérences, une fois que t'as tout en tête, c'est plus cohérent. Après, on aime ou on n'aime pas la fin, mais. Mais voilà, et Banshee, bah, okay. Banshee hein, tu peux le revoir, c'est toujours le même plaisir, même si j'avais oublié à quel point la dernière saison était beaucoup moins légère, beaucoup moins drôle.
Ah, ben ouais, la dernière saison, ouais, on pourra en redire. Il faut vraiment qu'on fasse ce podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé Banshee, donc il faudra qu'on se pose sur Banshee. Tellement de choses à dire sur Banshee,
qui a annoncé pas mal de choses. En plus, c'est tout frais de nouveau, donc il n'y a pas de soucis.
Nickel Chrome. Bah c'est bien tout ça. Et madame, on a pensé quoi en fait des deux? Elle a kiffé ou elle t'a fait plaisir ou c'est un petit cadeau?
Game of Thrones, ça a été sur les 3-4 premières saisons. À partir de la 5, ouais. ça s'écarte vraiment beaucoup du bouquin, donc elle a eu du mal. Mais non, après, dans le truc, elle a apprécié. La fin ne l'a pas plus choqué que ça.
Et Banshee, voilà, qu'est-ce qu'elle pense du.
Banshee, elle kiffe, elle trouve ça.
Elle a rien contre le casting féminin, elle a rien pour ton amitié pour la Amish?
Non, pas de problème pour la Amish. J'ai eu plus de problèmes pour l'actrice que j'ai croisée au travail hier. Non, mais quand je dis des problèmes, je plaisante. Hein, mais non, pas de soucis.
T'as été professionnel.
Ma copine est une ouf, donc j'ai la chance, on en reparlera plus dans un podcast plus axé sur les séries de couple.
yes.
J'ai la chance d'avoir une nana qui regarde des trucs bien ouf, quoi, quand je compare avec les gens autour de moi. Donc elle a kiffé Banshee, elle a même de l'empathie pour Proctor, elle kiffe Job.
Très bien.
Donc voilà.
C'est impossible de pas kiffer Job, hein, franchement. Il est vraiment excellent. Clair.
Et puis
c'est le bon pote.
Du coup, comme ça a pris beaucoup de temps sur mes summer séries pour faire un petit survol un peu rapide. On est dans la deuxième saison de Nosferatu. Qui nous ambiance un petit peu moins que la première. Voilà, j'ai regardé moi aussi, parce que ça s'est fini pendant l'été, donc la première saison de Snowpiercer. Là.
Yes.
Je suis un peu plus dubitatif sur les derniers épisodes. Après, la saison se finit sur un truc, bon, faut voir la suite. On a regardé aussi City of Angel de Penny Dreadful, qui est très bien, mais est-ce qu'il y aura une saison 2 vu que ça n'a pas eu un grand succès? Les gens avaient trop d'attentes par rapport à Penny Dreadful alors que c'est très différent. On a tenté de commencer Perry Mason, pour le moment on en est au point mort au bout de 2 épisodes. Je me suis fait faut un petit peu de français de temps en temps, hein, donc je me suis fait la saison 2 de Family Affair.
C'est bien ça?
C'est mignon, j'aime bien Jonathan Cohen, j'aime bien Gérard Darmon, etc. Il y a une petite énergie. C'est une boucherie cachère qui décide de se reconvertir dans le trafic de weed et de monter une bûcherie. Et puis voilà, ils vont être dépassés par les événements, être mis par des coups de pression par des mafieux, tout ça. Donc c'est mignon, voilà. C'est bien, parce que je crois qu'il doit y avoir 6 épisodes par saison, et puis ça doit être du format 35 minutes.
D'accord.
On va voir, quoi.
Muy bien.
Et non, la vraie découverte de l'été, c'est un rattrapage, parce que j'ai découvert que on en était. C'est la deuxième saison, je crois, qui est
ouais, déjà, ouais, là, je sais pas, moi,
Brassique.
Tu m'as déconseillé.
Ouais. Voir ça.
Mais il y a déjà 2 saisons de ça. En fait, ils ont sorti d'un coup, quoi. Parce que moi, j'ai jamais vu cette série. Hein,
je crois que j'avais déjà vu passer le truc. Il me semble avant.
D'accord.
Et là, c'est la deuxième saison qui est tombée. Et c'est vraiment sympa. C'est anglais. Pour ceux qui ont vu The Preacher, c'est avec l'acteur qui joue le vampire dedans.
Yes.
C'est des potes, ils ont une plantation de bœufs cachée dans le sous-sol à côté d'une ferme. Et puis voilà, comme je te disais, il y a un petit côté entourage, parce que bon, t'as le personnage principal, il a son meilleur pote qui est avec une meuf, une brune qui ressemble d'ailleurs à la copine, c'est comment qui s'appelle? C'est Alex dans Entourage?
Eric,
voilà. Donc il y a un peu ce profil là, il y en a un autre un peu enrobé, un peu benet, qui bouffe tout le temps, qui est pas très fut-fut. T'as celui qui est le plus gros cutard d'Angleterre et qui l'assume, mais toutes les pratiques, les sadomaso, les trucs.
D'accord. d'accord, bien sale.
Et voilà, c'est des losers attachants et ensemble ils font souvent des coups pour voler des trucs. Et ça donne lieu à des trucs un peu barges parce que à un moment donné ils vont voler des meubles historiques. Mais tu sais, avec ornements sexuels, avec des sgegs, des machins, tout ça. Et en fait, quand ils vont pour péter le truc, il y a déjà une équipe qui est en train de les péter, donc ils se tapent avec l'équipe. Et là, ils découvrent que c'est des vieux, dont son ancien prof d'histoire, parce qu'il y aurait une carte au trésor cachée dans le meuble, donc ils s'associent pour essayer de la trouver. Donc non, c'est vraiment pas mal. Et le héros principal, donc le vampire, là, il est un peu bipolaire. Donc il gère son truc. Et c'est très sur les liens entre eux. C'est très axé sur les liens d'amitié et tout. Non, vraiment. Tu me diras que quand
ouais,
t'auras.
Bonne
quand
surprise.
T'auras testé,
ouais, pourquoi mais, pas. Ouais. Ça me dit bien.
Connais
ouais.
Mon, tu connais anglaises. Mon amour pour les séries anglaises. si j'en vends une, si je dis aux gens d'aller sur une. C'est que ça veut dire.
Mais t'aimes bien les Brits finalement, tu vois. Je sais que faut juste que tu te lances un peu
non,
plus.
Non, mais il y a des choses.
Juste que tu gardes un peu plus.
Gang of London, c'est une tuerie. Les deux premières saisons Misfits, c'était génial aussi. Mais ouais.
Tabou,
voilà,
c'est mortel. Tu vois, l'Angleterre, ils sont vraiment doués.
Ouais,
hein,
mais Tabou, même tout ça, on est sur des trucs à l'ancienne.
Oui,
j'ai
ouais.
Plus de
ouais.
Mal avec. À la base, c'est plus quand c'est actuel. Mais bon, ils sont en train de pas mal changer. Et ce qui m'a fait aussi un peu changer, c'est. C'est Edgar Wright avec des films bien anglais.
Carrément.
Comme Shaun of the Dead ou celui dont je suis vraiment fan. Oh, j'ai un trou de mémoire qui rend un peu hommage au cinéma de Michael Bay.
Hot Fuzz,
voilà.
Hot Fuzz, génial. C'est légendaire,
voilà,
Hot Fuzz.
Ils m'ont un peu réconcilié avec tout ce qui est visuel anglais, tu vois. Chez Chico de Travers,
ah ouais,
Chico
mais ils
de
ont
Travière, Bière sur le Futal.
Ils ont révolutionné le format. Et enfin, est-ce que tu aimes Ricky Gervais quand même? Est-ce que Ricky Gervais ça passe? Parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas Ricky Gervais finalement.
On
gratte un petit peu.
Je l'ai pas vu dans grand chose, mais c'est celui qui fait les speeches.
Ouais, celui qui fait les speeches pour les Emmy.
Ouais, voilà. Donc si, je suis très fan du mec, mais il y a plein d'anglais dont je suis fan. Hein. N'oublions pas d'ailleurs que God est une série anglaise aussi, si je dis pas de conneries.
Ouais, God c'est une grosse production.
Si elle est pas anglaise au niveau de la production, elle est au niveau du casting.
Ça sent quand même qu'il y a vraiment une grosse majorité de Britanniques déjà dans le cast, dans la production. Je crois que les deux showrunners sont britanniques aussi. Ça se passe, c'est tourné en Irlande.
Oui, c'est,
voilà
c'est,
quoi.
C'est plus anglais qu'américain comme série.
C'est plus anglais que Carrie, c'est clair.
L'auteur des bouquins est anglais aussi, non?
Martin, ouais, je crois qu'il est sûrement british, lui. Hein. Ce n'est pas british, à mon avis, c'est dans les anglo-saxons, mais pas du côté de l'autre de l'Atlantique. Ouais. Je pense que voilà, c'est à mon avis, il est dans le coin, quoi. Ça doit être un gallois ou un truc comme ça. Il a une bonne teuté. Vous nous le direz en commentaire. Enfin voilà, je te conseille Afterlife, mais c'est un peu Afterlife. En fait, c'est une comédie sur le deuil, mais ça, c'est un bon mix entre la déprime et Ricky Gervais, en fait, son univers. C'est le quarantenaire qui trempe dans de l'art et qui se dégoûte de la vie. Et le meilleur de Ricky Gervais, après c'est pas lui, c'est grâce à Warwick Davis, c'est Un petit brin de vie. Où Warwick Davis joue son propre rôle et il y a un guest par épisode. Et tu sais, Warwick Davis, il joue sur son aura d'antan, il essaie d'aller de l'avant, trouver des castings, etc. Et Ricky Gervais et Kevin, attends, comment il s'appelle, j'ai oublié son blaze, Kevin Durant, comment il s'appelle, le blond aussi qu'on voit souvent avec lui, ça va me revenir, Stephen Merchant, c'est les deux qui ont écrit The Office, bref, ils essaient de lui trouver des plans.
Ricky Gervais, c'est celui qui est à l'origine de The Office, Stephen Merchant, c'est...
Ouais, en plus, ouais,
c'est,
les deux,
c'est le grand
dessus,
blond
ouais.
À lunettes, ou...
Ouais, voilà, c'est son acolyte, et ouais, bref, cette série, c'est 10 épisodes, mais tu te pisses dessus, quoi. Et Warwick Davis, ils en ont rien à foutre, quoi, il le massacre, et lui, je pense qu'il s'auto-parodie à mort, et... Il y a un moment avec Johnny Depp qui est culte, c'est ouf, assez ouf. Voilà, on a fait un petit détour, série british, et nous allons passer à ma série découverte saison 1 que j'ai vraiment kiffé. Alors j'ai découvert pas mal de saison 1, je vais pas toutes les citer parce qu'on en aura pour 3 heures, mais je vais vraiment rester sur celle que j'ai vraiment surkiffé. La première, c'est sur Prime Video, Dispatches from Elsewhere. C'est la création de notre ami Jason Segel. Jason Segel que vous connaissez de How I Met Your Mother. Notre pote Marshall. On kiffe tous Marshall. Ouais. En plus, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Surtout on est prod de Judah Pato avec Sans Sarah, Rien ne va.
Sans Sarah, Rien ne va dans la série de tous ces films un peu concon, romantiques et tout. Je trouve que c'est le plus drôle. Grâce à lui,
c'est le plus drôle.
grâce aux actrices et grâce à l'autre aussi là, le l'anglais qui était avec Katy Perry à l'époque, qui joue le chanteur dedans là.
Oula. Oui, comme il est complètement fou lui aussi, il est trop bon. Ah, faut que je son blaze, j'ai oublié.
J'ai un trou noir sur son blaze, mais pareil dans ça.
Mais qu'est-ce qu'il est fort aussi.
Dans ça, rien plus... ne va, mais il est énorme.
Il est trop fort. En plus, il est dans Ballers aussi, gros acteur. Comment il s'appelle Russell Brand.
Voilà, Russell Brand.
Je kiffe ce mec. Et Mila Kunis que je kiffe pour d'autres choses aussi. Il y a même Paul Rudd aussi. Paul Rudd qui a un super rôle dedans. Enfin bref.
Oui, exact. Non, franchement, si vous.
Et franchement, c'est un bête de film.
Vous forcez à vous taper.
Ah, tu m'as donné envie de le revoir là.
Si vous voulez vous forcer à vous taper une comédie romantique parce que votre femme est là et tout, sans Sarah, rien ne va. Vous allez gaulerie.
Ah, elle est mortelle. En plus, elle est bien gore, tu vois. Il y a quand même du pénis en pleine face.
Et puis c'est bien. Et ils vont à fond, quoi. Et puis.
C'est Hawaii,
original,
en plus,
justement, Jason Segel avec son délire de comédie musicale en marionnette vampire.
Et oui, en plus, mais il l'a vraiment fait ce truc-là, en plus.
Ouais.
Il a vraiment créé une comédie musicale, apparemment, qui a été produite et tout. C'est un mec hyper créatif. Et justement, cette série, on parle très bien. Je rebondis là-dessus. Et franchement, c'est lui qui l'a créé de A à Z. Il a été inspiré par un fait réel qui s'est passé en 2008. C'est un jeu qui a été créé sur Los Angeles, un jeu interactif avec la population de Los Angeles, se rapproprier les rues de Los Angeles, avec des messages d'espoir et tout. Et en fait, il s'est basé là-dessus et il s'est un petit peu écarté comme il fallait pour nous donner une série feuilletonnante qu'on a envie de suivre. Et franchement, j'attendais pas à Paris Fête parce que c'est un OSNI, comme on dit, hein. C'est un objet sériel non identifié, c'est complètement ouf, ça plaira pas à tout le monde. Parce que c'est une série qui va te mettre soit de côté, soit tu vas la kiffer, tu vois. Et franchement, moi j'ai grave kiffé. C'est une série à la fois personnelle, à la fois d'auteur, mais hyper universelle parce que ça parle de plein de choses. Ça nous concerne tous. Et c'est totalement assumé. Ça véhicule pas mal de jolies choses. Et moi, ça m'a fait grave du bien. En plus, en plein été comme ça, c'était vraiment mortel. Je m'attendais pas à vraiment. En plus, c'est des gros formats. Enfin, c'est quand même une série de 45 minutes. Moi, je pensais que Jason Segel, il est plus passé sur de la comédie, sur un truc un peu plus léger, mais. C'est ouf, franchement c'était une très très bonne surprise. Il y a un peu de, comment décrire ça, il y a un peu de Black Mirror dedans, tu vois. C'est, il y a de la parano, tu vois. En plus, juste je te mets un peu en perspective parce qu'il n'y a pas que lui, hein.
Ouais, non, mais
lui,
justement, dedans, je coupe une seconde.
C'est toute une bande.
Moi, je voulais y aller quand j'ai vu que c'était lui, tout ça. Et ce qui m'a retenu, c'est que j'ai cru comprendre visiblement que c'était un peu sous format anthologie, donc avec des épisodes différents à chaque fois, avec des personnages différents.
Non, il y a une ligne directrice qui est confuse de ouf, mais il y a une ligne directrice. Il y a une ligne directrice avec un but.
C'est les mêmes acteurs et en fait, sur tous les épisodes.
C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes personnages, okay. Et en fait, il y a une ligne directrice. Et des fois, il bifurque à 360 degrés, et des fois, t'as l'impression d'être dans un monde parallèle. Et c'est complètement ouf, tu vois. Enfin bref, c'est tout un groupe de potes, en fait. Pas un groupe de potes, c'est un groupe de potes qui va se former. Et c'est tous des gens qui sont fracassés par la vie. Lui, c'est un mec qui bosse dans l'informatique, qui bosse dans les algorithmes musicaux. Hein, c'est comme un mec comme s'il bossait pour YouTube et il va te conseiller certaines musiques que tu veux pas écouter, comme PNL. Bref, le mec, il y a son but. Et entre son taf, son appart, c'est jusqu'au jour où le mec, il va répondre à une annonce. Il va se retrouver dans Jojun Institute. C'est une organisation qui est hyper mystique. Limite, tu te demandes dans quoi il s'est embarqué. Et après, on va leur proposer, en fait, c'est un jeu de piste infini dans la ville de Philadelphie. Et dans ce jeu de piste, il va retrouver trois personnes, Simone, Fredwin et Janice. Et eux quatre, ils vont en fait se prêter au jeu, ils vont redonner un sens à leur vie par le jeu. Et franchement, c'est un véritable conte de fées. On navigue sans cesse entre le rêve et la réalité, c'est hyper onirique, c'est très bien réalisé. Franchement, tu doutes totalement de ce que tu vois à l'écran à chaque fois, en fait. Tu te dis, mais où je suis, qu'est-ce qui me fait. Tu vois, l'intrigue, elle avance. Des fois ils font des retours en arrière, des fois ils font des fois tu te demandes c'est quoi les personnages, tu joues en flashback. Et c'est hyper bien foutu parce que tu sais, en ce moment on est en plein dedans, en plus la théorie du complot, etc. La fomentation de révolution aussi. Ce qui m'a vraiment tué dans le truc, c'est la réappropriation de soi-même, déjà par rapport à toutes ces personnes qui sont complètement à l'ouest et qui sont complètement déconnectées. Ils ont que leur écran de télé, que leur smartphone, ils sont chez eux, ils se calculent pas. Et finalement, grâce à ce jeu, en fait, finalement, si ça va regrouper pas mal de personnes. Ça a quelque part créé une secte, mais une bonne secte, hein, pas Raël et pas Charles Manson. Et surtout, ils vont se réapproprier. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'espace, quoi. Parce que là, ils vont prendre le temps de vivre, ils vont prendre le temps de redécouvrir leur quartier, leur rue. Philadelphie qui n'a jamais été aussi bien filmé. Et c'est pas le Philadelphie de Rocky, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est bien, parce qu'en fait, ils jouent même avec ça, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vois les stairs de Rocky, les escaliers, et sa statue, c'est derrière un musée, en fait. Et en fait, on va dans le musée, et je vais, ils vont nous montrer la statue, et finalement, ils la montrent pas. On peut dire que Philadelphie, c'est autre chose que Rocky, ça va beaucoup plus loin. Et franchement, j'ai été complètement émerveillé par les rues parce que ça m'a fait penser à nous dans Paris. Parce que des fois, on avance pour foncer dans le métro, rentrer à la maison. Et juste des fois, quand tu lèves un petit peu la tête, je sais pas, tu vas voir une mosaïque, tu vas voir un street art, tu vas voir une cour d'immeuble magnifique, alors que jamais tu prends le temps de regarder, parce que tu rentres chez toi, même si t'as vécu à Paris, tu es né à Paris, tu prends pas le temps de regarder. Et en fait, cette série, elle te dit ça. Elle te dit par rapport à ces personnages qui sont complètement enfumés, pas bien dans leur peau. Prendre le temps de marcher, prendre le temps de justement de faire ce jeu de piste et d'aller sur les toits, etc. Et de découvrir leur ville comme avec une beauté qu'ils n'ont jamais vue, c'est super beau, c'était beau, c'était très beau, fidèle. Bon, par contre, c'est un peu long au départ, j'ai eu du mal à accrocher, je suis pas rentré complètement dans le délire sur le premier épisode.
Ouais.
J'ai bien aimé, tu vois, mais je me suis dit, ouais, ça va être difficilement digeste parce que c'était vraiment, ça faisait un peu Twin Peaks, tu vois. Mais après, une fois que t'es accroché, mon pote, tu fais partie intégrante de la bande et t'as envie de voir la dernière pièce du puzzle parce que c'est un thriller qui est mortel. C'est un thriller où il n'y a pas de fin, où tu vas te faire ta propre fin. Et le dernier épisode, je te le dis pas hein, si t'y vas, mais le twist de ouf quoi. Et c'est très très personnel par rapport à Jason Segel, par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie d'acteur. Parce que le mec il a quand même assez souffert, ça tu l'apprends par rapport à cette série. Et il y a un beau message de fin pour la population, pour les gens quoi. C'est super un beau labyrinthe poétique hyper chelou. Et finalement c'est plein d'espoir et ça parle à tous ces gens. Je pense que c'est un message qui va au-delà des acteurs en eux-mêmes, parce que je pense que tous les acteurs quand même ils sont bien impliqués. Je pense que celui qui a fait la plus grosse perf pour moi c'est André 3000 de Outkast, ouais, ouais. Si vous aimez le rap. Et il a fait une perf de ouf. Enfin, moi je pense que déjà c'est un acteur assez solide, dans le peu de rôles où je l'ai vu c'était un secondaire. Mais dans ce rôle là, là il joue le rôle d'un milliardaire hyper intelligent, hyper parano. Et il est super bluffant quoi. Il y a aussi Sally Field qu'on connaît aussi. Qui a une grosse carrière derrière elle. T'as un personnage transsexuel aussi qui est très bien. Franchement, c'était complètement fou. Donc moi, je vous conseille Dispatches from Elsewhere. C'est une série qui a marqué 2020. À ne pas rater. Et c'est une série vraiment qui est originale. Il y a 10 épisodes. 10 épisodes. Hyper bien gaulé. Franchement, surtout l'épisode... j'ai kiffé tellement d'épisodes dedans. Mais un petit bonus pour l'épisode de fin. Parce que il m'a désarçonné quand même. Mais ça m'a fait... Ça me fait rire et en même temps hyper pleurer pour Jason Segel parce que tu sais c'est le mec quand même il te montre les coulisses de la vie d'un acteur, c'est pas évident quoi. C'est quand même un acteur à succès avec How I Met Your Mother et derrière il a fait on lui a proposé pas mal de daubes où justement il joue beaucoup avec le je te spoil vite fait une scène, à un moment il est en train de courir dans en fait à un moment c'est du quatrième mur parce que tu sais plus si c'est son personnage de la série ou c'est lui-même et t'entends Jason Segel montre-nous ta bite. Voilà, tu as juste ça. C'était excellent et franchement le mec s'est fait plaisir et le mec ultra talentueux parce que tu vois on voit ces gars-là qui jouent des rôles de concon des fois dans des séries télé, dans des sitcoms et tout. Et tu vois que les mecs comme ils touchent quand tu vois John Krasinski ce qu'il arrive à faire sur Sans un bruit, quand tu vois Jordan Peele qui vient quand même de la comédie qui arrive à faire des films horrifiques de ouf et lui tu vois l'écriture de ça, c'est monstrueux. Donc mon pote Jason Segel, je sais que tu nous entends, je sais que t'es un de nos sauces, big up mon pote. Voilà, Fidel, je te laisse enchaîner, messieurs.
Oh bah moi, j'ai rien à enchaîner, hein. Je t'ai dit tout ce que j'avais vu déjà.
T'as tout balancé ? Moi, je vais enchaîner moi-même
Non, parce que Snowpiercer et Penny Dreadful, j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts quand je les commençais. Donc voilà, après, ouais. Le reste, ça va être pour d'autres podcasts aussi, parce que c'est plus les trucs de rentrée, les Rise of by Wolf, The Boys saison 2, tout ça. Donc moi comme j'ai dit la vraie découverte de l'été c'est Brassic et puis après c'était du rattrapage
moi bien
et voilà mais mais j'insiste Penny Dreadful ça vaut vraiment le détour, le City of Angel hein, j'en profite du coup pour
j'ai mis de côté aussi,
j'en profite pour
remettre une petite couche
voilà et puis Family Affair ouais si vous êtes pas trop exigeant c'est rigolo,
il faut aider la production française monsieur. Alors, on va enchaîner, on va rester en Angleterre. Enfin, en Angleterre, production. Alors, est-ce que c'est une production américaine ? Je pense que c'est une production américaine qui est basée en Angleterre. C'est une série Apple Original TV. C'est Ted Lasso que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et franchement, excellent. Pour moi qui aime le foot et qui aime la gaudriole et qui aime aussi l'Angleterre et qui aime les vannes sous la ceinture, c'est parfait. C'est une série qui est sortie tout droit d'une pub. En plus, j'ai fait une petite recherche. Avec le très très bon aussi Jason Sudeikis. Il est vraiment mortel ce mec. Franchement lui aussi second couteau mais à chaque fois qu'il passe sur un écran dans Colossal, dans le film de... Comment il s'appelle celui-là, il était mortel aussi. Il y avait aussi du Zizi en l'air. Des frères Farrelly dont j'ai oublié le nom mais bon. Tu vas me le rappeler Fidèle avec Owen Wilson, Jason Sudeikis. Bref, on le retrouvera plus tard. Et franchement mortel le gars. Le gars il a fait... Et la série repose beaucoup sur lui mais... au départ, et après ça part sur plein de personnages différents. Et c'est, alors je rappelle un petit peu l'historique. En fait, ils avaient fait la promo de la première ligue sur la NBC Sports, et en fait ils avaient pris Jason Sudeikis pour faire un coach en fait de football américain qui allait en Angleterre genre pour entraîner Tottenham. Et t'as un sketch comme ça de 4 minutes que j'ai rattrapé sur YouTube qui est excellent, et en fait c'est le premier épisode en gros écarté sur 30 minutes de Ted Lasso. Et en fait ils en ont fait une série, tu vois, c'est le coach de foot US qui connaît absolument rien au foot européen, qui connaît à peine les règles, et qui va en fait c'est la confrontation entre les Britanniques et les Yankees, tu vois. Même au départ, même au niveau des insultes, le jargon l'argot britannique est très différent de celui des Américains, et en fait il se fait appeler Yonker en anglais, ça veut dire branleur. Et à chaque fois les gens ils le traitent de Yonker dès sa première interview, quand ils voient que le mec il est pas, en fait il reprend une équipe qui est quand même mal en point, et dès la première conférence de presse, le mec il est complètement à l'ouest et tout le monde le voit, tout le monde commence à l'insulter. Il a même pas fait son premier match, il est complètement hors jeu le gars. Et finalement en fait on va être attaché à lui directement, tu vois. C'est bien drôle, c'est bien gras, c'est hyper touchant parce que il y a des liens qui vont se créer avec les personnages qui vont au-delà de la comédie. Les dialogues sont percutants. Qu'est-ce qu'il y a de bon aussi, il y a, comment il s'appelle, notre ami Julie Temple qui a fait pas mal de films, ouais, aussi. Elle est mortelle, elle est dans Horns, dans comment ça s'appelle, Killer Joe. Elle avait un rôle un peu bizarre, un peu avec notre ami Matthew McConaughey, un peu pédophile sur les bords.
Elle est souvent dans des rôles un peu bizarres.
Ouais, ouais.
Mais
là ça va. Là.
Elle joue pas dans Hostel 2 aussi ou un truc comme ça.
C'est fort possible. J'ai pas suivi sa carrière.
Il y avait sur une affiche de, c'est l'affiche de Hostel 2 avec une tête décapitée, je crois, ou un truc comme ça. C'était elle, la tête décapitée.
Ouais, elle aime bien les trucs un peu chelous. Elle aime bien les ambiances un peu chelous quand même. Notre ami Jonathan Temple. Excellente aussi, il y a aussi la présidente du club qui est très très bonne en fait, elle a des motivations qui sont un peu alambiquées, que je vais pas le spoil par rapport à son club, elle veut pas que ça fonctionne vraiment, c'est de la politique politicienne par rapport à la politique sportive de son club qui est mal en point, parce qu'ils arrêtent pas de se faire taper, et t'as un petit personnage qui est hyper cool, enfin t'as son assistant coach qui est très bien, qui vient avec lui des States, et t'as le jardinier du stade qui va intégrer le staff. Franchement ce rôle il est excellent, et pareil par rapport aux joueurs aussi, t'as tous les stéréotypes, t'as le capitaine qui a des le capitaine vieille tradition façon Roy Keane, je sais pas si ça te parle. Roy Keane, c'est un mec qui jouait à c'est le mec qui jouait à Manchester United, qui était ouais, qui était là pour découper au milieu de terrain, le mec il faisait régner la dans le vestiaire, et c'est un peu ça, c'est un peu un stéréotype. T'as le stéréotype un peu du joueur façon Neymar, le mec talentueux, hyper individualiste, tu me donnes la balle mais en fait j'en ai rien à foutre de mes coéquipiers. Quoique Neymar en ce moment là c'était pas mal en fin de saison, il a été bon le Ney. Et voilà, enfin Jason Sudeikis encore une fois parfait. La série elle passe tranquille là, elle est en cours, elle est pas encore finie, il y a 7 épisodes qui sont arrivés de manière illégale.
Je l'avais mis de côté, je me suis pas encore lancé.
Ouais, je pense que tu vas beaucoup aimer.
Je l'avais mis de côté, ouais, donc là tu m'as bien hypé en plus, donc
Non, ouais, parce que en plus Jason Sudeikis, tu vois, et c'est vraiment j'aime bien l'ambivalence entre les Quinri et les Anglais par rapport au sport. T'as le Quinri qui a le discours, et t'as les Anglais qui sont beaucoup conservateurs par rapport à eux-mêmes, par rapport à la partie sportive. Et t'as lui, tu sais, qui est tellement enthousiaste, t'as envie de lui mettre des baffes des fois, tu vois. Il est tellement fort, en plus avec sa moustache et avec ses méthodes qui sont complètement ouf. Bon, les scènes de football, j'avoue, en général, de toute façon, il n'y a jamais un film sur le foot qui nous a fait de belles scènes de foot. C'est pas avec une série, une petite production série où ça va arriver, donc les scènes de football sont très très factices, très fake. Ouais. Mais voilà, ça passe bien. En tout cas, tout le monde s'en donne à cœur joie et très bonne ambiance. Et vraiment, c'est la série feel good à ne pas rater pour cette rentrée. Si vous êtes un peu stressé par la rentrée et par le taf, c'est juste nickel. Ben voilà, c'était pas mal en restant dans le sport, parce que j'ai pas mal enchaîné de documentaires sport, parce que j'ai été un peu sauveur de sport avec le Covid. Donc moi j'ai saigné les docus là. Il y a pas mal de docus là, j'ai gratté sur les plateformes, que ce soit sur Netflix, que ce soit surtout sur Amazon, parce que Amazon en fait il y a plein de choses, mais ils te les mettent pas en pleine gueule. Il y a plein de films d'horreur qui sont géniaux, t'as plein de films des années 80, des nanars des années 80, etc. Des films d'action indiens, mais par contre faut gratter, tu vois. Et pour les documentaires de sport, c'est la même. J'ai gratté, je suis tombé. Au début, j'ai regardé All or Nothing, c'est un documentaire sportif sur des grosses institutions sportives. J'ai regardé le numéro sur le Brésil qui était pas mal. C'était bien, Après, c'était le Brésil à la Copa América. En fait, on a regardé en train de se soigner par rapport à ce qu'ils ont subi en 2014 par rapport à l'Allemagne. Ils se sont pris ouais, ils se sont bien fait sécher. Et là, en fait, c'est la reconstruction du Brésil par rapport à la Copa América qui est aussi au Brésil. Et c'était pas mal, c'est des bonnes coulisses où tu vois que les joueurs quand même si c'est quand même des grosses machines, c'est quand même des gros joueurs, etc. Tu vois que c'est assez fragile, mais celui-là qui m'a vraiment convaincu, c'est celui-là sur les All Blacks, parce que c'est déjà les All Blacks, c'est une institution à travers le sport. Même si t'aimes pas le rugby, tu connais les All Blacks, et ça aussi c'est mortel, parce qu'en fait la motivation des All Blacks c'est pas de gagner. Ils ont les All Blacks quand ils se présentent, ils ont une grande chance de gagner. C'est la manière, c'est la pression des Néo-Zélandais, parce que c'est le seul sport qui est vraiment national, tout est basé là-dessus. Ils peuvent gagner par exemple à 14, il y en a un qui peut se faire prendre un carton rouge. Même si t'as tapé ton équipe 50-0, le mec qui a pris le carton rouge, ça va être dans la presse, personne ne parle de la victoire. C'est hyper difficile en fait pour eux d'être tout le temps au top. Ils n'ont pas le droit à des baisses de régime. Et là-bas en fait, là ils les suivent sur une tournée d'hémisphère sud. Parce qu'entre des Coupes du Monde, entre des tournées en Europe, là-bas pour qu'ils restent motivés, en fait ils font des championnats un peu comme... c'était quoi déjà ? Tournoi de rugby, c'est... Tu sais quoi, ils font le truc la France là, le 6, comment ça s'appelle ? Le Six Nations, sauf que en fait ils font une sorte de Six Nations, mais dans l'hémisphère sud. Je veux pas te donner le blast, parce qu'en fait ils ont plein de challenges juste en solo par rapport à une équipe. C'est comme si on se faisait un fond sur le terre et on mettait une coupe en jeu en fait. Et là par exemple ils ont un challenge purement océanique contre l'Australie. Ils ont un challenge hémisphère sud avec l'Argentine, avec l'Afrique du Sud, etc. Et les mecs qui se mettent en face d'eux, déjà ils sont surmotivés parce que tu es le All Black, tu vas absolument les taper, ou tu veux même pas les taper, leur mettre des essais, déjà mettre des essais contre eux, c'est comme si quelque part t'avais gagné, tu vois. Donc par exemple l'Argentine, ils ont jamais battu. L'Argentine, s'ils mettent 14 points, 20 points contre eux, c'est une grosse victoire. Et en fait tu vois tous ces détails quoi, tu vois que même si c'est des grosses machines, c'est des industries de pointe, le moindre petit caillou, la moindre poussière, ça fait partir en sucette, tu vois. Juste les mecs pas motivés à l'entraînement, ils se font reprendre de voler par le coach. C'est hyper détaillé, tu vois que les mecs qui sont sélectionnés, pareil, la motivation quand ils arrivent, la fierté de porter un maillot. Maintenant, le sport qui est devenu général, tu vois, quand on voit les mecs arriver en équipe de France, limite, ils ont fait 5 matchs de Ligue 1, 5 matchs en Première Ligue, ils arrivent en équipe nationale, limite ils s'en foutent. Alors que là, vraiment, il y a un truc qui va au-delà, c'est limite mystique, c'est limite religieux, tu vois, c'est un cérémonial. Il y a le haka, le mec qui porte son maillot des All Blacks, mon gars, c'est frisson, quoi. Même toi qui n'es pas néo-zélandais, quand tu regardes en train de faire le recrute, quand ils rentrent sur le terrain, l'ambiance, etc., la ferveur qu'il y a autour de ces mecs-là, une ferveur qui est positive, parce que même si c'est des sportifs de haut niveau, ces mecs ils restent simples, tu vois. À un moment ils sont en Argentine, ils sont dans la rue, dans un resto, ils sont insultés par des psys, ils sont morts de rire, tu vois. Ils ont pas encore les gardes du corps, ils ont pas. Enfin, quand tu vois les molosses en même temps, faut pas les embrouiller. Mais voilà, il y a encore cette proximité sportive, un truc limite amateur, alors que c'est une des plus grosses institutions sportives au monde. Et ça fait. Voilà, ça m'a fait du bien, c'est un vent de fraîcheur, en plus ça te motive pour aller training, même si t'auras jamais leur gabarit. Et pareil, le détail des postes aussi. Moi, si je suis petite taille, je dis pas que j'aurais pu jouer pour eux, mais il y a des mecs qui sont un petit peu plus petits que les piliers, par exemple, parce qu'on voit souvent les. À l'époque, on voyait les John Alomou, on voit souvent les grosses queutés, surtout qui sont sur les premières lignes. Et tu vois jamais les talonneurs, les mecs qui jouent à l'arrière, etc., qui sont un peu plus petite taille. Petite taille par rapport à un rugbyman de haut niveau, c'est 1m80, 1m75. Ouais. Eux, c'est des nains, tu vois. Mais juste ça, tu vois, même la différence de volume de jeu, la vitesse, etc. Enfin, c'est super, en plus, je suis pas rugby, tu vois, mais c'est vraiment, c'était hyper prenant et c'est hyper bien filmé. C'est filmé comme une série télé c'était, comme il s'appelle, Taiki Watiti qui narrait, c'était mortel. Et une autre série, je reste sur le sport. Une autre série, pareil, j'ai fouillé, j'ai découvert. En plus, c'était avec VO sous-titré, parce qu'elles sont pas toutes sous-titrées. C'était Take Us Home sur Leeds United avec l'arrivée de Bielsa sur la première saison. Ouais. Et sur cette première saison, il se passe trop de choses, tu vois. Le mec, il a foutu un de ses bordels dans le club. Sans Bielsa, quand il arrive, c'est un révolutionnaire. On voit ce qu'il a fait avec l'OM sur les 6 premiers mois, même s'ils ont pété en route parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir physiquement, parce que le mec est très exigeant au niveau de l'entraînement. C'est un pressing constant, c'est jouer sur la première moitié de terrain, sur la moitié de terrain adverse, ce qui demande un effort énorme. Tu vois, ouais, déjà, ouais. Faut que tu domines, faut que tu aies la balle, et si t'as pas la balle, les retours défensifs que tu dois faire. Et collectivement, franchement, c'est hyper chaud. Et bref, ils ont complètement adhéré au truc, mais en fait, bien ça, il y a des méthodes très sud-américaines. Là, c'est comme un gourou en fait. C'est un mec qui va mourir avec ses idées. Si tu dis, tu vas le voir, oh, écoute, je suis mort. Je fais plus training, je pourrais pas faire les fractionnés aujourd'hui, le mec il va t'insulter quoi. C'est un mec en fait qui met des terrains en côte pour que les mecs ils courent en vitesse et qu'ils fassent des montées et des descentes. C'est un ouf en fait, c'est un savant fou quoi, la Bielsa. Et bref, on voit sa première saison qui arrive en Angleterre. Pareil, lui, en Argentine ça se fait souvent, il envoie des spies et des espions sur les terrains adverses pendant les entraînements. Alors ça se fait pas en Angleterre donc ça fait scandale. Et lui en plus il est très transparent donc. Il convoque une conférence de presse, il explique tout, il explique sa méthode, etc. À un moment, ils sont arrivés au barrage Leeds. C'est l'année où ils montent pas. Ils sont montés cette année, mais en 2018, ils sont pas montés. Et à un moment, il y a une décision de l'arbitre complètement fallacieuse, tu vois, où il accorde un but. Et Bielsa, il regarde ses joueurs, il fait laisser les marquer, tu vois. Et en gros, le terrain il s'ouvre. Il y en a un qui a pas capté, c'était le suédois de l'équipe qui a pas capté. Il court après le gars pour le tacler, tu vois, pour pas laisser le but. Parce qu'en fait, dès que le but il était accordé, tu vois, en fait, là, le jeu il s'est arrêté. Sauf que les joueurs de l'île, ils ont continué à jouer. Et ils marquent le but. Et bien ça, il était pas content. Il a dit à ses joueurs, laissez-les marquer, tu vois. Et ça a fait un partout. Et derrière ça, bon, il y a d'autres péripéties. C'est pas que ça qui monte pas, mais ils sont éclatés sur l'autre match. Et bref, tu vois la ferveur populaire que ça entraîne. En fait, Leeds, c'est quand même un club, c'est une grosse institution d'Angleterre. C'est un club qui a souffert, qui a fait limite banqueroute sur quelques années. Ils sont incendieux, ils sont reconstruits. Il y a un actionnaire qui est italien qui a remis de la thune. Ils ont fait venir Bielsa, ils l'ont gardé. Et là, ils sont montés cette année en Premier League. Et en fait, tu vois ça, et c'est narré par Russell Crowe. Et c'est filmé comme une série télé, c'est hyper bien réalisé. C'est vrai que c'est dommage, nous en France, on a beaucoup de champions, mais on sait pas raconter nos champions en fait. Et eux, même avec une équipe de Ligue 2, même avec Sunderland, le documentaire qu'il y a sur Netflix, et bah t'es tout de suite, t'es en plein kiff parce que c'est hyper bien filmé, c'est super beau, c'est super. Chaque image, c'est cinégénique quoi. Tu regardes un film, avec la voix.
C'est autre chose qu'en France, c'est sûr, hein, je viens de voir.
Ils savent raconter leur histoire, ils savent raconter leur champion, alors que nous, on a plein de champions. Et
je viens justement de voir sur Prime, tu parlais des trucs de Prime. Là, il y a un truc sur le PSG qui est tombé et qui.
Ouais, c'est pas le plus mauvais, mais c'est pas le plus. C'est pas le meilleur.
Ça commence.
Du Covid.
Juste avant le Covid avec la rencontre face à Dortmund au match aller.
Ouais, c'est ça.
Et ça se finit avec la défaite en finale.
La défaite contre Bayern. Mais le problème, c'est que c'est un résumé qui dure 50 minutes. Alors que là, il te raconte les tenants et aboutissants d'une saison complète.
Ouais, bah
avec
ouais.
Toutes les coulisses, comment fonctionne un transfert, le mercato d'hiver, les traditions anglaises.
C'est ça qui est intéressant. Là pour le comparer au truc du PSG, à part faire mousser le PSG, de chercher à donner une bonne image.
Je pense que nous, en tant que supporters, on kiffe, mais.
Dire qu'ils s'entendent bien, qu'ils savent bien rigoler, c'est pas très intéressant, quoi.
On apprend que dalle, on apprend pas plus que ce qu'on apprend sur les journaux. Et le seul truc qu'on a vu qui était bien, c'est la récup d'Mbappé qui m'a impressionné, mais après le reste, on s'en fout, quoi. Le reste, t'apprends que dalle, quoi. Le reste, il y a aucune information qui est sortie au-delà. Alors que là, vraiment, les mecs, ils te montrent tout de A à Z. Ils montrent la famille des joueurs, ils te montrent les fenêtres de transfert, ils te montrent le Boxing Day, ils te montrent aussi les joueurs qui vont en contact des supporters. Ouais, il y a un truc qui est resté hyper village, quoi, tu vois. C'est l'esprit de clocher que nous on a plus du tout. Et malheureusement, je pense que, comme je l'ai dit, on a plein de champions. Je suis tombé sur un documentaire de la suite. Hein, je suis tombé sur le documentaire de Teddy Riner, qui est quand même un mec qui a gagné, qui est énorme hein, dans le sport mondial. C'est ouf, Teddy Riner. Un documentaire France 2, mais il fait pitié le truc. T'as l'impression que c'est un vieux truc de Stade 2 qui est obsolète,
c'est quoi.
Quoi.
C'est Teddy Riner. C'est celui où il casse son lit, là, où il parle qu'il casse son lit.
Ouais, enfin, tu sais, c'est là pareil, il perd son championnat à Bercy. Et après, il se réentraîne, il perd du poids pour justement repartir à l'assaut d'une nouvelle couronne. Et tu vois que le mec, il était taqué et tout. Et tu sais, c'est filmé quelconque, on dirait un sportif lambda, quoi, qui est chez lui, quoi. Et pareil sur le documentaire d'Anelka. Anelka, tu le caresses dans le sens du poil, mais tu montres jamais les vraies coulisses. Tu vois, c'est le mec que t'excuses, quoi. Tu le montres en victime, même s'il a eu quand même pas mal de galères. Mais tu le montres en victime, tu le caresses dans le sens du poil. Le réalisateur, c'est un de ses potes. Ça apporte rien, tu vois. Alors que là, mon gars, tu vois, le mec qui narre, c'est Russell Crowe. Tu vois, la voix de Russell Crowe qui parle de Bielsa, quoi. Et directement, mon gars, t'es pris dedans. Tu suis ça, mon gars, tous les jours. Moi, j'avais ma petite sucrerie, j'ai regardé ça. C'est même pas mon club de cœur. Mais t'as envie de les supporter, t'as envie d'acheter ton maillot direct. C'est là ils en ont fait un sur Mourinho que je vais suivre là sur Tottenham qui a l'air très bien où tu vois j'ai vu un petit le petit teaser, c'est il est dans le vestiaire, il parle à Serge Aurier, il fait Serge tu me fais peur. C'est pourquoi tu me fais peur?
Parce que t'as un colmon.
Tu sais ce qu'il dit? Il dit t'as une tête à être expulsé et t'as une tête à nous faire perdre avec la VAR. J'étais mort de rire. Enfin, c'est sûr qu'on voit pas ici, c'est dommage, tu vois, parce que moi j'aime bien ça, parce que ça les rend humains,
ouais,
tu vois,
moi, le sportif, moi, j'ai envie de voir Tourelle parler à Kurzawa et lui dire la même chose.
Ouais, mais ouais, je pense que le mec, il est en colline de vacances, je pense que c'est l'animateur. Je vois pas ce qu'il apporte en fait. Moi je pense qu'il est arrivé au bout du truc là, et il faut changer, mais bon, on s'écarte un petit peu, nous restons sur une série télé, Fidelo. Sur les séries, donc on parlera de Rising by the Wolf plus tard. On parlera aussi de Lovecraft Country, c'est très important. Ça, c'est une série. L'année dernière, on a eu Watchmen. Et cette année, on aura Lovecraft Country. Je pense que c'est les deux grosses séries de la décennie à venir. Franchement, j'ai vu 4 épisodes. C'est de la folie pure. T'as pas regardé, Fidel?
J'ai pas attaqué encore. Pareil, c'est mis de côté.
Mais... Oh là 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 là. Et ça, tu peux regarder. Comme madame, elle aime bien les trucs un peu gore. Je pense que vous allez kiffer parce que c'est complètement fou. Je n'en dis pas plus, mais c'est un truc à ne pas rater. J'ai fait un peu d'animation aussi. Je suis parti sur Baki, une série de fight. série manga de fight qui est hyper fun en fait. Je pensais que c'est un truc fight très premier degré, mais en fait c'est complètement fucked up, c'est hyper marrant. Et une série très très déprimante que j'ai pas fini parce que j'ai vraiment du mal et ça me déprime totalement, c'est Japan Sins, sur des catastrophes naturelles au Japon qui se passent, qui s'enchaînent en fait sur sur pas mal d'épisodes. Et en fait chaque épisode t'es dégoûté de la vie quoi. C'est pire que The Walking Dead leur truc quoi. En plus c'est fait à la japonaise, t'es écœuré quoi. Mais c'est mortel hein, c'est hyper bien fait, l'animation est très belle. Je conseille fortement, mais faut y aller avec le cœur accroché parce que putain ils arrivent à t'émousser les bâtards tu vois. Japan Sins sur Netflix. Et en cours, les grosses séries en cours de cet été une à laquelle j'ai dit au revoir, c'est Dark. Dark qu'on fait une dernière grosse saison complètement folle parce que Dark déjà ils ont fait une saison 1 qui était vraiment top. Ils ont fait une saison 2 qui était complètement folle, qui allait encore plus loin. Et Dark c'est des boucles temporelles. Et là ils ont carrément créé du multivers quoi.
Ouais,
c'est un truc de fou. C'est non c'est... mais il faut y aller fidèle, il faut finir parce que c'est assez court.
Je vais pas finir, j'ai à peine commencé, j'ai lâché au bout d'un.
Ah d'accord, je croyais que t'avais lâché la saison 2.
J'ai lâché la saison 1 au bout d'un épisode ou 2 je crois. Non, ça m'a
pas. Ah d'accord, donc c'est pas pour toi.
Ça m'a pas attiré.
Pourtant t'as fait allemand première langue, c'est dommage.
Ouais mais j'ai tout perdu donc je parle mieux anglais que enfin non, je parle plus allemand du tout même. Je suis incapable de te faire une phrase donc
Tu croises pas de touristes allemands au taf qui te demandent leur chemin. C'est dommage.
Ouais, les Allemands ils
très belle langue comme ça.
Ils parlent tous anglais de toute façon donc
ouais, ils parlent mieux anglais que nous en plus. C'est vrai que quand tu vas en Allemagne, c'est un truc de fou comme ils parlent anglais.
Mais non bah justement les premiers quand je t'ai fait au début, je voulais répondre en allemand aux touristes allemands et c'est de l'anglais qui sortait donc alors qu'à l'origine je déteste l'anglais, c'est pour ça que j'avais fait allemand donc voilà.
Maintenant
on regrette hein, l'anglais est quand même beaucoup plus utile. Mais voilà, c'est une langue, l'allemand reste une langue intéressante à travailler.
Bien sûr, il y a toutes les langues sont belles, c'est ce que je dis. Bon, il y en a qui sont un peu plus dures que les autres, hein, mais toutes les langues sont belles, monsieur. Donc on était sur Dark et franchement, une grosse fin, une très très grosse fin, une fin qui divisera, je pense, parce qu'ils ont tellement été loin dans le concept, ils ont tellement poussé les charrues que j'avoue, c'est un peu dur. Dark, c'est un peu, je peux comparer ça à quoi ? En fait, c'est comme si je prends Tenet par exemple. Voilà, c'est plus un truc que tu vas ressentir que tu vas comprendre. Et si tu veux vraiment avoir des explications littérales, si tu veux pas t'ouvrir et te faire ta propre explication, c'est pas une série qui va te prendre par la main et qui va te donner les réponses. Donc je pense que tu peux être rapidement dégoûté. Il y en a plein qui sont dégoûtés, mais ils sont allés au bout de la saison 3, j'ai pas compris, parce que on avait compris que c'était des oufs qu'ils allaient tirer le truc comme des malades dès la saison 2, tu vois, surtout sur la saison 2 qui est vraiment géniale. Et là, franchement, ils ont fait une fin de ouf. Donc Dark, chapeau aux Allemands. Et pour rester sur l'Allemagne, j'ai continué How to Sell the Drugs, qui est très marrante. C'est une petite série, petit format de 20 minutes. Encore sur des vendeurs de dope. Hein, c'est des mecs qui vendent des petites pilules qui rendent assez gays sur le net. Et bref, ça parle de drogue, sont encouragés à te droguer, mais ça parle en fait de tout le réseau de drogue, comment ça fonctionne, etc. Et les deux mecs sont très attachants, c'est très drôle en fait. Et pareil, c'est bien, c'est un peu fraîcheur parce que comme c'est des Allemands et c'est un délire allemand, c'est des trognes d'Allemands avec des sapes à l'allemande. Et voilà, c'est une bonne série de jeunes que j'ai beaucoup aimé aussi. Super-héros, fidèle, très important. Umbrella Academy et Doom Patrol qui sont arrivés en même temps. Malheureusement, en fait, le problème d'Umbrella Academy, c'est que j'aime beaucoup, hein, c'est très fun, c'est assez respectueux. J'ai pas lu le comics, mais on m'a dit que c'était assez respectueux. Et c'était cool. Et là pareil, la saison 2 je trouve qu'elle est encore mieux que la saison 1 et ils vont super loin. Mais il y a un truc qui me bloque par rapport. En fait ça sort en même temps que Doom Patrol. Et comme je préfère Doom Patrol à Umbrella Academy, j'ai du mal à l'évaluer correctement, tu vois. Comme elle se doit. Parce qu'en fait Umbrella Academy, ils sont fun, c'est mortel, on se marre bien. Mais le gros souci par rapport à ça, c'est que c'est. Il faut tellement de références à tout. Qu'à un moment, t'as envie de te dire, mais crée ton propre univers, quoi. J'en ai marre de passer des sons qui te disent, tu connais ce son-là, ça se passait dans les années 60, et tu connais ce son-là, et tu connais ce son-là. À un moment, tu sais, t'as l'impression d'écouter un jukebox, en fait. Ouais. Et à un moment, reste sur ta série, quoi, tu vois. Ce que Doom Patrol arrive à faire. Doom Patrol, ils arrivent à exister. Bien sûr, il y a pas mal de références aux comics. Un gros bloc par rapport à la saison 1 et la saison 2 qui sont restés très très homogènes. Je pense même que je kiffe un peu plus la saison 2 qui n'est pas finie, parce que, voilà. Coronavirus oblige, ils ont pas pu faire le 10e épisode qui arrivera, je pense, très bientôt. Et c'était confirmé aussi pour la saison 3. Et voilà, moi j'adhère complètement à l'univers.
J'y arrive pas. J'ai vraiment essayé, parce que la saison 1, je l'ai vu quasiment en entier. Je croyais l'avoir vu en entier, en fait. C'est quand j'ai attaqué la saison 2 que je me suis rendu compte que non, j'avais pas la fin de la 1 parce qu'il y a des trucs que j'avais pas vus. Et pareil, la 2, j'ai regardé 2-3 épisodes ou 3-4 et non, ils me perdent à chaque fois. C'est
Ah ouais, non, ça va très très loin. Hein. Ça va très très loin. C'est très Grant Morrison, c'est un auteur de comics qui écrivait ses comics sur LSD parce qu'il est complètement fou, le type. Il faisait des trucs de ouf et en fait, ils sont très restés là-dessus. Au lieu de se dire, on va faire un truc qui est. Que tout le monde peut capter, un truc tout public, et ils sont partis à fond sur le comics à mort, ils sont même allés hyper trop loin en fait, c'est ultra ouf hein. Il y a des trucs sur la série qui attendent pas quoi.
Il y a des trucs qui font mouche sur la saison 1, je me rappelle de l'épisode avec le scientifique nazi et tout là.
Ouais, c'était mal.
C'est génial, j'aime bien les accès gore qu'il y a aussi dans une série comme ça. Et qui me font un peu plus digérer le côté cheap des effets spéciaux qui souvent sont des trucs qui me bloquent. Mais ouais, au niveau de l'histoire en général et tout, ils finissent toujours. Il y a trop de choses, il y a trop d'arcs, il y a trop de. Je sais pas, mais ils finissent toujours par me perdre. Je finis par déposer les armes.
Non, franchement, là, moi, cette saison a été canon. Il y avait des épisodes de fou. L'épisode avec les fantômes qui scannent et tout, c'était un truc de malade. Il y avait les astronautes qui débarquent dans le jardin. Les mecs qui vont sur la lune, c'est complètement fou en fait. C'est un truc de malade. C'est un gros truc de malade et c'était vraiment excellent, même par rapport au nouveau personnage. On avait la petite fille de Miles qui était vraiment. Son arc est mortel. En fait, ça s'est bien embriqué, en fait. Ils sont partis sur Miles et tout en développant encore les autres personnages qui sont complètement fracassés. Elastic Girl qui a du mal avec ses pouvoirs. Crazy Jane qui est toujours aussi folle et qui, elle est en totale perdition, quoi. Avec tous ces personnages, elle demande si elle va y passer ou pas. Robotman, Brendan Fraser qui est toujours aussi excellent. Negative Man qui est mortel aussi. Matt Bomer, vraiment mortel par rapport à sa famille. Et pareil, Victor Stone aussi qui creuse avec lui, avec sa petite amie. Voilà, moi j'aime bien en fait, c'est hyper original parce que c'est des personnages fracassés qui vont rester je pense encore longtemps et c'est pas vraiment des super-héros qui vont sauver la mise en fait. C'est des gens qui doivent se sauver eux-mêmes avant de sauver la mise et ça c'est mortel tu vois. Et voilà, c'est l'ennemi aussi, c'est pas genre le grand méchant qui va éclater une ville ou qui va prendre l'univers, c'est fait dans des mondes parallèles, c'est fait aussi avec la psyché, déjà sur la première saison avec Mr. Nobody qui était ouf. Là ça part sur la petite fille. Et je suis pressé de voir cet épisode 10 qui va envoyer du pâté je pense. Et voilà, moi j'aime bien, en plus j'aime bien la plastique. Tu vois, c'est la plastique un peu cabaret, c'est une plastique un peu. Ça me fait beaucoup penser à la saison d'American Story, la saison 4 qui se passe dans le cirque. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça, tu vois. Ouais. Le gore, il est bien foutu, bien comme il faut. Des fois, il est suggéré, des fois, ils te le montrent en pleine face. Voilà, ils jouent avec ça, quoi. En plus, je pense qu'ils ont quartier libre. C'est une série DC Universe, c'est Warner qui produit. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est bien qu'ils l'aient gardé parce que Swamp Thing a été annulé. Là, ils ont mis Stargirl. Il y a la saison 3 de Titan qui arrive. Je pense que la Warner, là, ils ont le vent en poupe, là.
J'ai essayé Stargirl.
J'ai pas essayé encore.
J'ai essayé deux épisodes, non.
T'as pas kiffé?
Non. Non, merci.
j'essaierai pour être à jour, mais c'est pas un truc qui m'a attiré de suite, je veux plus rester sur les valeurs sûres. Mais ouais, Doom Patrol, autant la saison 2 de Titan, j'ai pas du tout aimé, mais la Doom Patrol saison 2 a confirmé tout le bien que je pensais d'elle, donc continuons pour une saison 3 et je suis pressé de voir ce final. Est-ce qu'on est bon? Rattrapage aussi Fresh of the Boat, j'ai continué sur la saison 3, j'étais à l'ouest moi de Fresh of the Boat alors qu'il y en a 5, je suis très très en retard. Et un truc que je me suis fait alors que je sais que c'est nul en opération sur un format de la chum, j'ai voulu finir Hawaii Five-O parce que je voulais faire plaisir à un pote et il m'a dit la saison 10 c'était cool, donc je me suis lancé.
Et il t'a menti.
Voilà, alors il y a toujours les mêmes tares, hein, on va pas se mentir. Il y a toujours les mêmes tares, mais ça fait du bien, tu vois. Moi, j'aime bien Hawaii, et franchement, en été, faut vite fait que je finisse avant que l'automne arrive. Mais ça fait du bien, quoi, tu vois. C'est pas prise de tête, ça se regarde bien. Il y a toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts, on va dire, pour être poli. Mais et ça fait tellement longtemps, en fait, que j'ai pas vu ce genre de format, avec l'enquête, avec le petit fil rouge qui sert pas à grand chose. Et bah, franchement, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, je regarde ça tranquillement.
Moi, ça m'avait
fait. J'ai même maté ça le soir.
Ça m'avait fait ça avec l'arme fatale en série. qui était, un bon petit plaisir coupable, parce que je trouvais ça vraiment pas mal. Après, c'est dommage quand ils ont dû virer l'acteur. Parce qu'une fois que t'as oublié Mel Gibson, finalement il était vraiment bien dans le rôle.
Ouais.
Même si son remplaçant là, j'ai plus son nom, celui qui joue Stifler et compagnie dans les Américains.
Ah, il est bon lui. Hein.
Ouais. Même si lui, c'est bien aussi ce qu'il fait derrière, mais du coup ça a tenu une saison et puis ils ont arrêté la série. Mais pareil, où ils ont réussi à m'accrocher, c'est qu'ils sont pas restés sur le truc de base d'un épisode, une enquête. Ils ont quand même su te mettre un fil rouge, des fils rouges derrière, notamment sur le personnel de Riggs et tout ça, avec son passé, avec qui font quoi, c'était bien. Et bon, je peux comprendre les plaisirs coupables à la Hawaii Five-O.
Ouais, moi c'est plus pour Hawaii, la fraîcheur, le.
Oui,
c'est joli quoi, tu vois.
C'est
joli comme une
zone,
c'est pas méchant.
C'est un paradis quoi, ça te rappelle tes vacances.
Voilà, c'est ça, ça rappelle mes vacances et. Et voilà, en plus c'était vraiment, ils tirent leur révérence et il y a plein d'acteurs que je kiffe dedans. Et je me dis, vas-y, on va dire au revoir comme il faut. Ça va faire plaisir et ça nous en fera parler sur les séries de la chaîne. Mais voilà quoi, chacun ses plaisirs coupables, comme on dit. Bah voilà, on a fait un peu le tour, mon gars, de cet été qui a été finalement bien rempli, hein, malgré les vacances. On est tous les deux partis en vacances, mais on a pu faire le taf comme il faut. Hein. On n'est pas massé, ma vie est une série télé pour rien. C'était bien cool tout ça. Est-ce que t'as des recos fidèles à nous donner là? Des recos musicales, des recos de bouquins, de films, de ce que tu veux?
Non, là comme ça, tout de suite, non, il y a eu la reprise du travail qui a été compliquée, donc non, si, je donnerais une recommandation de bouquin, tiens. Comment il s'appelle? Bah non, je la donnerai pas parce que je me rappelle plus du nom en fait. J'en parlerai plus tard. Je suis une série de bouquins qui suivent toujours le même personnage.
D'accord.
Attends, bouge pas juste deux secondes parce que si, c'est scandaleux.
Vas-y, tu peux chercher tranquillement. Il faut que tu donnes le blaze quand même. Nous t'écoutons, fidèle, nous t'écoutons. Voilà.
Donc l'écrivain c'est John Connolly. Alors c'est pour ça que je cherchais à le rappeler, parce que à ne pas confondre avec Michael Connelly, qui est plus connu niveau bouquin. Là c'est John Connolly et il a toute une série de bouquins qui suivent le même personnage, un ancien flic qui devient détective privé. Ça flirte toujours un peu avec le fantastique. Enfin c'est un truc, je me dis putain, mais quand est-ce qu'ils adaptent ça en série? Je dois être sur une dizaine, plus d'une dizaine de bouquins qui suivent les aventures de ce mec-là. Donc chaque bouquin pourrait faire une saison. Et il y a tous les éléments dedans pour faire une bonne saison. Il est toujours accompagné de deux mecs qui l'aident un peu. C'est un grand Renoir, un peu toujours habillé en costard classe, qui parle pas et tout. Et un petit un peu pouilleux avec chemise hawaïenne, jean craqué et tout. Et c'est des tueurs de ouf. Et c'est un couple homosexuel en même temps.
Mortel.
Et donc voilà. Et puis il a dans son entourage aussi des frangins machin qui le. Et tout le truc fantastique est super bien mené à chaque fois. C'est fantastique mais sans trop. Tu te rends compte que le mec il a un truc au fond de lui et qu'il est recherché pour ça. John Connolly, je crois que le tout premier volume, ça doit être Tout ce qui meurt ou un truc comme ça, parce qu'en parallèle de toute son histoire à lui, un coup il se tape contre une sorte de secte, un coup il va dans un patelin, enfin voilà, vraiment la recommandation que je ferais c'est celle-là, parce que moi ça fait plusieurs bouquins que je me dis mais putain, quand est-ce que ça sort en série?
Ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Ouais.
Quand tu vois toutes les merdes qu'ils adaptent. Acheter les droits des bons bouquins, et il y a vraiment vraiment tout ce qu'il faut pour faire un personnage badass, mystérieux comme on veut, même ses histoires avec il est avec une nana, il a un enfant mais finalement elle le quitte parce qu'il est trop borderline, il est trop ceci, il est trop cela, et elle se remet avec un gars, donc il y a même les rapports avec le nouveau mec de son ex, avec sa fille et tout, mais qui est sa fille qui a un peu entre guillemets les mêmes pouvoirs que lui, qui voit des choses. Non, génial. John Connolly,
ok. C'est noté, monsieur, c'est noté. Bah, moi, au niveau de Marocco, je vais rester sur de la lecture. On va rester en comics. En ce moment, je lis en VO Strange Adventures de Tom King, notre ami Tom King, qui a gagné le Eisner Award avec Mr. Miracle. Et c'est vraiment encore de la bombe. Là, on arrive à la moitié de l'aventure. Il y a, c'est fait en 12 issues. Issues, c'est en fait des numéros. Des numéros de comics. Ça se fait en 12 parties. On arrive bientôt à la 6ème. On arrive à la moitié de l'aventure. Et c'est vraiment excellent, tu vois. Ça parle des aventures de Adam Strange, un héros. C'est le héros de la planète Ruan. Et en fait, il est connu à travers la galaxie parce qu'il est très courageux, très. Il a le sens de l'honneur, le monsieur. Et bref, il va être pris entre la guerre de sa planète et sa femme. Pas mal de choses qui vont lui arriver sur Terre. Il va rentrer en collision avec les héros de DC. Tout ce qui est Superman, comment il s'appelle il y a Superman, il y a Green Lantern. On va croiser du Batman, on va croiser du Mister Terrific. Vraiment, c'est excellent. C'est du Tom King, c'est lui qui, sur Mister Miracle, il avait gagné le Eisner Award en 2019. Et là, je pense qu'il est reparti pour gagner parce que le mec, il a tout compris, quoi. C'est ouf. Il a une écriture de ouf, comme d'habitude, avec pas mal de punchlines. Il brise au quatrième mur. Il va au-delà de ses héros. Il parle du quotidien. Il parle de la coulisse. Et franchement, je vous le conseille à mort. Moi, j'ai grave kiffé. Après, faut être lecteur VO. Faut pas sauter pour la VF. La VF, je pense que tu comptes facilement 12 mois, voire un an et demi avant qu'elle arrive en France. Mais mettez-le de côté, Strange Adventure. Je conseille à mort. Voilà, c'est ma petite reco pour ce numéro de podcast. C'est tout, hein ? On peut conclure, monsieur ?
Bah ouais, écoute.
On a fait notre petite heure ?
On a fait notre petite heure. Ouais, on a fait une bonne heure, je pense même.
Yes, I. Donc, j'espère que vous allez bien de votre côté. On vous retrouve pour un prochain numéro. Ça sera quoi ? On fait une petite surprise. On fera peut-être la série des couples. Ça fait longtemps qu'on veut la faire, celle-là. La série couples.
La vignette est prête.
Ah, en plus t'as préparé la vignette, donc c'est magnifique.
Je t'envoie ça juste,
c'est
génial. Après, tu vas gueulerie.
Ah, je pense que je marre souvent avec toi, donc je pense que je vais gueulerie là. Donc voilà, donc portez-vous bien. On vous souhaite encore une bonne rentrée 2020-2021. J'espère que le tap va bien. J'espère que vous n'êtes pas positif au Covid-19. J'espère que vos familles se portent bien. N'hésitez pas à nous faire des retours sur notre podcast parce que nous voulons nous améliorer, nous voulons être un podcast de renom à travers la France, à travers l'univers. Et c'est à peu près tout. Voilà. Plein de gros bisous et un maximum de peace and love pour vous.
Peace.
Cheers.